à voix nue. Cette semaine, Antoine Guillot rencontre Étienne Robial. Ce soir, domino et cocotte en papier.
Étienne Robial, bonsoir.
Bonsoir.
Votre nom ne dira peut-être pas grand-chose à certains, à nombre de nos auditeurs, sans doute. Pourtant, ils sont des millions à connaître vos créations. Vous êtes un des grands créateurs de l'ombre, de ceux qui façonnent depuis près de 50 ans le paysage graphique, le monde de signes dans lequel nous vivons. Vous êtes l'inventeur de ce qu'on aura appelé, grâce à vous, l'habillage télévisuel. Les téléspectateurs vous doivent en premier lieu celui de Canal+, évidemment, dont vous avez été pendant 25 ans le directeur artistique, et ce, dès sa création en 1984. Mais dans le même temps, vous avez habillé M6, La 7, iTélé, RTL9, la chaîne parlementaire, Public Sénat, j'en oublie certainement, hein, sans parler de la réalisation de nombreux génériques pour d'autres chaînes. Le logo du PSG, très connu, c'est également votre création. Mais même si on s'abstrait du foot et de la télévision, on ne peut pas lire un journal ou un magazine sans être tombé sur vos refontes, des maquettes, celles des Inrecuptibles, de Diapason, de l'équipe, du Parisien Magazine, ou votre création de celle du Point, le Point d'origine, hein, en 1972, sans parler, et c'est là votre art du grand écart, de celle de L'Enragé, en 1968, mais aussi Mademoiselle Achetendre, par exemple, chez Philippe Aki, quelques années à peine plus tard. Tout ça rappellera quelques souvenirs à nos auditeurs. Et puis, ceux plus littéraires connaissent aussi vos logos, vos maquettes, des éditions de Noël ou Vertical. Par exemple, la charte graphique du Centre National de la Cinématographie de Unifrance, de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image à Angoulême. C'est encore vous, d'autant que la bande dessinée, ça a pendant longtemps été votre grande affaire, non content d'avoir inventé encore l'aspect graphique originel de magazines, de journaux, de revues tout à fait légendaires, Métal Hurlant et À Suivre, hein, les parenthèses d'À Suivre, c'est vous. Vous avez créé et animé, jusqu'à leur rachat par Gallimard, les tout aussi mythiques éditions Futuropolis, qui a été dans les années 70 et 80 le fer de lance de la bande dessinée d'auteur. Éditions Futuropolis qui ont accompagné les débuts de futures stars du genre comme Jacques Tardy, Enki Bilal, Moebius, et puis c'est chez Futuropolis qu'ont été éditées les premières œuvres de Florence Estac, de Jean-Claude Götting, d'Edmond Baudouin ou d'Evermelaine, Jos Swart, enfin tant d'autres éditeurs, graphistes, directeurs artistiques. On peut aussi vous appeler manipulateur visuel, dictateur graphique parfois, mais peut-être avant tout typographe et peintre en lettres. Nous n'aurons pas trop d'une semaine, Étienne Robial, pour déplier toutes ces dimensions, d'autant qu'elles se résument toutes sans doute en une obsession. Et vous êtes sans doute un homme d'obsession, vous allez nous raconter ça. Une obsession, celle de la forme simple, la forme géométrique, la forme lisible, avant tout, Étienne Robial.
Radical, disons.
Vous nous recevez dans votre maison parisienne. Nous sommes quelque part entre le parc Georges Brassens et les voies de chemin de fer dans le 15e arrondissement de Paris. C'est une maison de style Bauhaus, ou en tout cas ça y ressemble?
Non, c'est une maison moderne, tout simplement, d'un architecte qui s'appelle Zielinski, qui n'a œuvré que dans le 14e autour du parc Montsouris. Et là, il a fait une pointe jusqu'à la limite. Et là, on est dans le 15e, on est à 100 mètres du 14e, et voilà, Zielinski, c'est une maison qu'il a dessinée et fait construire en 1927.
Ce qui frappe quand on entre chez vous, on parlait d'obsession déjà, on voit la collection, vous êtes un collectionneur, on a vu des cafetières en entrant chez vous, en grimpant d'un étage, nous avons une collection de lampes de bureau, et ce n'est qu'une partie émergée sans doute de tout ce que vous avez accumulé. D'où ça vient ce goût de la collection, de la chine?
C'est tout simplement le plaisir ou le jeu de la découverte, hein, de la découverte de l'aspect exhaustif un petit peu des choses. Vous avez vu aussi la collection de la série noire.
Collection complète.
Bien sûr. dont les 8 premiers qui sont brochés, vous savez, les premiers sont brochés, sont pas reliés, et pour en faire une collection complète. comme ça, hein, il y a 2500 numéros, faut qu'elle soit bien sûr en parfait état. Donc pour parvenir à ça, il faut en faire au moins 3 ou 4 collections de façon à... Donc c'est une maladie pas très grave, c'est la collectionnite, voilà. Et la joie qui est procurée par l'inscription au stabilo sur un numéro, un petit trou au milieu d'une longue suite de numéros déjà jaunis, bon, appelons ça une petite érection. Voilà. Et ça, c'est un vrai plaisir. Donc ça fait partie de cette chose-là. Et même chose, c'est une chose que j'ai développée dans les collections de livres ou dans les génériques, toutes ces choses-là, c'est ce côté de succession avec des codes. Hein. On verra cette semaine mes trois fondamentaux autour desquels tourne tout mon travail. Et dans les collections, il y a ce côté recherche. Alors, ne m'intéresse que des choses... à découvrir, le verre moulé, par exemple, qui sont les carreaux des architectes dont les gens se servaient dans les années 50 comme des cendriers, ou des dessous de verre, ou des carafes, et puis de s'apercevoir que, effectivement, au Bauhaus, que je collectionne aussi tous les bouquins du Bauhaus, que tous les grands créateurs Wagenfeld et compagnie ont commencé par faire des cafetières, des lampes en verre moulé, et ça finit en salière, poivrière, tasse, théière et autre chose. Et puis ce plaisir aussi de ce qu'on appelle la Chine. Enfin, on fréquente les brocantes. Et puis c'est vrai que chaque découverte est une joie. On verra avec les livres club, là pareil, il y en a des milliers. Et c'est vrai que les livres club, on découvre qu'il y a trois grands bonshommes, Faucheux, Massin, d'Arches, et puis qu'il y a un Klein ou William Klein qui a fait aussi des bouquins, puis un jeune Delpire qui a aussi par la suite fait beaucoup de choses. Et donc ça, c'est des joies intenses, c'est de découvrir. Alors, c'est marqué nulle part, c'est inscrit nulle part, et ça, c'est une vraie découverte.
Ce qui vous émeut dans ces objets, c'est donc qu'il y ait un homme derrière, si je vous entends bien. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, ce n'est pas la forme pure, c'est qu'il y a quand même quelqu'un derrière. Quoi.
Oui, enfin, bien sûr, la forme, à quoi sert cet objet, comment il a été pensé, qui l'a pensé, qui l'a réfléchi, qui l'a commercialisé, qui a eu l'audace de le produire. C'est tout ça. Alors ça, on le voit après autour de tout, que ce soit les porte-mines, ce qu'on appelle vulgairement des critériums ou des carandages, etc., il y en a des centaines de modèles. Pourquoi ce modèle et pas un autre? À telle fin, pour tel métier, pour tel type d'activité. J'ai une passion aussi pour tous les outils, pour mes outils de graphiste, de l'été, les équerres, les traceurs d'ellipses, les traceurs de courbes, les traceurs d'angles, les machines pour faire des polygones et ces choses-là. Et c'est vrai que c'est toujours amusant de comprendre ou de pas comprendre pourquoi telle chose. L'histoire des crayons de couleur, je collectionne bien sûr les crayons de couleur, donc je répertorie chaque fabrication de couleurs. Et on fait des constats, on se dit mais pourquoi manque-t-il toujours telle couleur dans les boîtes de crayons de couleur? Alors ça, c'est au bout de 10 ans de recherche.
Et vous avez un volumineux cahier.
Voilà, c'est là-dessus que je note toutes mes trouvailles. Et donc dans la marque Stabilo, ça on est dans les entre-deux-guerres, hein, c'est des boîtes de crayons de couleur pour les gamins. Alors ils sont plus ou moins comme toutes nos boîtes de crayons, plus ou moins taillées. Il n'y a jamais le jaune, où les jaunes sont tout fins, etc. Et un jour, on trouve une boîte que de jaune, ce fameux jaune qui manque dans les séries des boîtes. Donc c'est l'intrigue. C'est tout bêtement, et ça c'est les Allemands bien sûr qui me l'ont expliqué. Alors, Stabilo, c'est l'Allemagne de l'Est et tout ça. Donc pouvoir retrouver les archives, ça a pris un petit peu de temps. Enfin, après la chute du mur, on a pu avoir accès aux usines Pélican et ainsi de suite. Ben, les secrétaires, elles prenaient les crayons jaunes pour surligner les mots importants dans les papiers dactylographiés. C'est tout bêtement l'ancêtre de notre bon vieux stabilo jaune fluo. Recréer l'histoire tout bêtement en ramassant des boîtes de crayons de couleur, en alignant les choses, c'est un vrai plaisir. Alors après, on veut partager, on veut expliquer pourquoi le 8744 manque toujours dans les boîtes de crayons de couleur.
Voilà, mystère est enfin levé. Alors je ne sais pas quelle boîte de crayons de couleur vous aviez quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant, Étienne Robial. En tout cas, vous êtes là, vous nous recevez à Paris, mais vous n'êtes pas parisien d'origine. Vous êtes né à Rouen à la fin de l'année 1945, si je me suis bien renseigné. Dans un Rouen, on imagine, largement encore détruit par les bombardements de la guerre de 1945. Vous avez
des souvenirs assez flous en 45.
En 45, mais enfin, j'imagine que 2-3 ans après, tout n'était pas encore reconstruit.
Je suis ce qu'on appelle un enfant du baby boom, en plein 45. Oui, Rouen a beaucoup morflé, hein, puisque c'est les premiers ponts. Après le Havre et tout ça, donc tous les ponts ont été dévastés. Et toute ma jeunesse, bah, y a eu les souvenirs les plus flous, c'est quand même au milieu des pelleteuses, des bulldozers, des grues, de la reconstruction, enfin de toute cette période de reconstruction de maisons à la hâte, d'immeubles préfabriqués et des grandes dalles. Ils s'appelaient coignées, c'était du béton armé, gravillonné, et on amenait mur après mur, et tout venait s'assembler à l'image d'ailleurs de ce qui se faisait au Baos ou en Hollande avant-guerre. Donc je n'observais pas forcément ça à l'époque. Mais enfin oui, j'ai des souvenirs flous, certes, mais d'un Rouen en reconstruction avec des rues défoncées et toutes les rues qui se redessinaient petit à petit pour retrouver le long de la Seine, du port, un visage plus serein.
Que faisaient vos parents ?
Mes parents, alors je n'ai pas des souvenirs très émus de ma jeunesse. Mon père était gérant, administrateur d'une maison des jeunes et de la culture, d'avant Malraux, hein, donc c'était plutôt des maisons de jeunes et ainsi de suite. Et ma mère était secrétaire de direction dans de l'aliment pour bétail, voilà. Je veux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse, mais je n'ai pas gardé de souvenirs très émus de ma jeunesse. D'abord, on était en coloc avec Jésus. Mes parents étaient très cathos. Et c'est vrai que j'avais assez peu d'assiduité le dimanche matin pour aller à la messe. Alors c'est vraiment ça, des souvenirs marquants, et très vite j'ai marqué ma différence. Heureusement, il y avait à l'époque les Boy Scouts, ce qui permettait de fuir et d'aller à la messe avec les Boy Scouts. C'était plus rigolo que d'aller à la messe le dimanche, et ça m'a beaucoup troublé. Donc très vite, j'ai cherché à fuir. J'ai eu une enfance scolaire assez variée, mitigée entre le privé, le scolaire, le collège, le lycée, et ainsi de suite. Je suis quand même allé jusqu'en seconde, et très vite, je voulais aller aux Beaux-Arts. Peut-être je voulais être architecte. En fait, je suis un architecte un peu raté. Donc, en 62, j'étais tout de suite aux Beaux-Arts. Beaux-Arts de Rouen, voilà. Voulant fuir justement la coloc avec Jésus, très vite j'ai bossé. Donc j'étais un gros bosseur pour fuir. Puis en même temps, j'étais bien élevé, donc je pouvais pas dire à mes parents « je m'en vais ». Donc je bossais sur les marchés la nuit ou les stations-service. J'étais très stations-service, ce qui me permettait, et aux Beaux-Arts c'était très pratique, parce que j'allais à ma station le soir vers 10h30, 11h, jusqu'à 6h du matin. Je venais prendre une douche et un petit-déj, et puis je repartais à l'école. Et donc voilà, pareil, j'ai eu très vite ma chambre de bonne à Paris, dans le 17e rue de Prony. Et ça, là, c'est mes premiers grands souvenirs où j'avais un Solex. J'ai d'ailleurs une collection de Solex, pour une parenthèse, des cols de cygne de 48, 49, 50, très beaux. Je ferme ma parenthèse. Et donc, en Solex, on allait à la cinémathèque de Langlois, qui était pas très loin du 17e, qui était encore à Chaillot. Et voilà.
On parlera demain de 1968 et de vos débuts dans la presse, et notamment on parlera de L'Enragé demain, mais qu'est-ce que c'était qu'une école des beaux-arts avant 68? Parce qu'on sait qu'il y a eu, en tout cas à Paris, je sais pas comment ça s'est passé à Rouen, il y a eu beaucoup de contestations de la manière dont on enseignait l'art. C'était quelque chose qui vous semblait très scolaire ou au contraire un lieu possible d'épanouissement?
Là, c'est pareil, l'école de Rouen avait bien sûr une section architecture, ce qui était une sorte d'aimant. Puis après, j'ai fait la rencontre d'un livre qui a un peu déterminé un peu mon travail après, mais c'était une école d'art traditionnel où on faisait de la sculpture, du modelage, du dessin anatomique, comme ça se fait encore dans certaines écoles d'art. Et il y avait une section qui s'appelait à l'époque, donc ça fait sourire aujourd'hui, qui s'appelait publicité. Donc il y avait dans l'école où il y avait 200-300 élèves, toutes années confondues, un secteur publicité où on s'intéressait aux arts graphiques, mais qu'on n'appelait pas les arts graphiques, on appelait la publicité, ce qui est devenu en 68 la communication visuelle. Enfin, ça, on aura l'occasion d'en parler un petit peu. Mais c'est vrai que c'était... Et mon diplôme... ça se faisait en 3 ans plus 2, et puis il y avait le DNAP, le diplôme machin national d'art plastique, que j'ai fait sur les dominos. J'ai eu d'ailleurs 20 sur 20, et j'ai développé l'aspect graphique des dominos, le 6, le double 6, le double as, c'est-à-dire et ça dominos, sur 300 pages.
Le principe, c'est de faire rentrer des cercles dans des carrés, c'est la quadrature
voilà,
du cercle.
Voilà, donc excellence. Ça ne m'a jamais quitté, et déjà, la façon dont on pouvait disposer 2 points dans un carré, 3 points dans un carré, 6 points dans un carré... Bien sûr, le jeu traditionnel avait ses règles, mais là, je remettais en question la façon de remettre un point. Pourquoi ce point serait-il ce point las isolé serait-il obligatoirement en plein centre? Donc, je propose des tas de variations. Et puis, pourquoi noir sur blanc? Pourquoi pas blanc sur noir? Et pourquoi pas pendant qu'on y est en couleur? Qui dit couleur dit accord de couleur. Donc voilà, et c'est un délire graphique. Et ma deuxième partie de diplôme est sur le diplôme sur les fonctionnaires. Très bien. C'était tout simplement la décomposition graphique de la cocotte en papier, qui s'inscrit elle aussi dans un carré et avec des angles à 45 degrés. Donc là, c'est pareil, c'est une déclinaison de la cocotte en papier. Et à l'époque, qui était cher aux fonctionnaires. Je ne sais pas si les fonctionnaires aujourd'hui font encore des cocottes en papier, mais je me souviens que c'était mon sujet de diplôme et que c'était pour moi extrêmement déterminant.
Vous allez ensuite voir du côté de Vevey, la ville de Charlie Chaplin et d'Henri Nestlé, au bord du lac Léman. Voilà. Là-bas, il y a une école qui est encore très... très réputé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous alliez chercher?
Alors, c'est l'école des arts et métiers de Vevey, et cette école proposait un cours exclusivement réservé aux étrangers. Et c'est grâce à mon 20 sur 20 au diplôme, à première partie de diplôme, j'ai obtenu une bourse qui m'a permis de... Et à l'époque, les grandes stars du graphisme viennent bien entendu de tous les pays luthériens, l'Allemagne, la Hollande et la Suisse. Donc la notion de l'écriture, de la chose inscrite, en opposition à nos cultures artistiques latines, où on cause beaucoup... ça a son charme aussi. Mais la Suisse, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et au même moment, les grands Suisses, qui sont Peter Knapp. Et Peter Knapp, bah, c'est Dim Dam Dom. Une grande émission de télé, c'est les photographes, c'est le Peter Knapp photographe pertinent suisse qui lui cherche en France un peu de fantaisie, qu'il n'a pas lui en Suisse. Jean Widmer, qui sont toujours, on est toujours copains, et c'était les grands aimants, et fallait absolument que j'aille voir chez eux comment ça se passait. Et Jean Widmer, bah, c'est aussi elle, Jardin des Modes, plus tard le Centre Pompidou, les autoroutes et ainsi de suite, enfin c'est des grands bons hommes. Donc c'est assez drôle parce que venaient en France au début des années, fin des années 50, début des années 60, trouver un peu de fantaisie, et moi j'allais chercher un peu de rigueur dans notre folklore artistique avec un petit tas, et ça c'était extrêmement stimulant. Donc ce cours était réservé uniquement aux étrangers, donc il y avait des Japonais, des Allemands, des Italiens aussi, et là j'ai appris ce que c'était que la rigueur. Donc j'avais déjà quand même 4-5 ans de beaux-arts dans la vue, et les cours, c'était plutôt à l'époque veste en velours, foulard et cheveux longs, et là l'établissement n'exigeait pas, mais souhaitait quand même une tenue décente, surtout une blouse blanche. Et le jeune Robial, c'est en 67, donc une blouse blanche très bien, et je chine aux puces une blouse de chirurgien de l'armée avec une grosse croix rouge sur le devant et nouée par derrière. Et bien sûr, l'école commençait à 7 heures le matin. Beaux-Arts était plutôt habitué d'arriver vers 11h30, midi moins le quart, pour voir s'il y a un peu de monde. Donc c'est ça la rigueur. Et à 7h05, j'étais déjà dans le bureau du directeur. Et le directeur m'a dit « Vous êtes français ?» J'ai dit « Oui ». Il dit « Oh ben, je l'ai vu tout de suite ». Alors ça, non. Hein, vous avez à la Migros, là, vous allez trouver une blouse blanche avec une petite poche où vous pourrez porter vos crayons, etc. Et puis vous en profiterez pour vous laver les mains parce que vous avez les ongles sales. Il était 7h05 et c'était mon premier jour. Le deuxième jour, on a appris à se servir d'un crayon. Le troisième jour, d'un compas. Et un engin qui n'a plus cours aujourd'hui, qui était un tire-ligne, une sorte de plume pour faire des traits extrêmement fins. Il fallait faire des grandes pages avec des petits traits. Donc j'ai eu quelques moments d'hésitation en me disant j'ai peut-être pas fait le bon choix. Et puis au bout de la fin de la première semaine, je me suis rendu compte que je ne savais pas tenir un crayon, que je ne savais pas manipuler le tire-ligne, encore moins le compas. Et tous les jours, on apprenait des vraies choses professionnelles en commençant par se familiariser avec les outils, savoir comment on les utilise, comment on les nettoie, comment on nettoie son pinceau en poil de martre, faire la différence entre un poil de martre et un poil en oreille de veau, ce qu'on appelle un traînard pour faire du dessin de lettres, comment on le lave, comment on le plie entre son index et son pouce. Waouh ! Et ça a duré 6 mois et j'ai tout appris.
De cette formation, vous êtes revenu avec des grands maîtres. Vous en avez cité quelques-uns, mais il y avait on parlera de la police Futura plus tard avec Canal+, mais Paul Reiner, par exemple, était quelqu'un d'important pour vous.
Le gros Suisse important, bah, c'est le grand maître de Knapp et machin, qui est Max Bill, et là, qui a été élève du Bauhaus, directeur de l'école d'Ulm, qui est là le monument suisse qui a tout déterminé, tout défini, et qui était le maître à penser de toute l'école suisse des Müller, Brockmann et ainsi de suite. Enfin, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais sur toute la géographie, tout le vocabulaire précis, technique, des arts graphiques, des arts visuels en général, toutes les règles des formes et des contre-formes, tout avait été défini, la réglementation des couleurs, de la façon dont les couleurs s'associent, ce qu'elles peuvent provoquer, et tout ça, et ça c'est un de mes points que j'affectionne, tout ça sont toutes les règles physiologiques, hein. Le rouge ça brûle et le bleu ça rafraîchit, et le vert fait valoir le rouge et ainsi de suite. On verra avec mes méthodes d'enseignement pourquoi la marchande de quatre saisons met une bâche verte pour vendre ses pommes.
On remonte à Goethe, voire à Hippocrate.
Goethe a défini aussi toutes ses règles, toutes les couleurs successives et tout ça. Et tout ça, c'est un énorme contraste avec ce qu'on appelait dans les écoles dites d'art ou françaises, où, ma foi, on faisait jouer notre sensibilité. Alors, ça n'a pas que de mauvais côté, mais enfin, c'était, moi, l'aspect beaucoup plus radical et beaucoup plus l'efficacité dans l'utilisation des couleurs pour parvenir à ses fins. Hein. On vend plus facilement un objet noir sur un fond blanc qu'un objet noir sur un fond noir. Et vice-versa, sans aucun cas parce que c'est joli, c'est tout simplement parce que dans le fond de l'œil, il y a la rétine qui jatouille et que quand ça jatouille, et ben, on perçoit, et la façon dont on va le percevoir va faire qu'on va le mémoriser. On verra aussi après comment on l'identifie, comment on le mémorise, comment on peut en faire en sorte de ne pas le mémoriser, et ainsi de suite. Et là, on est dans du factuel, hein, dans du physiologique. Ça brûle ou ça refroidit.
Vous sortez en quelle année de cette école de Vevey?
Ben, très vite, je suis rentré, puis c'était chaud et c'était les barricades. Donc voilà.
Eh bien, les barricades, on en parlera demain. Étienne Robial, merci. On vous retrouve même heure demain. Alors, vous nous raconterez comment vous êtes retrouvé sur les barricades, ce qui va vous arriver après, ce qui ne vous empêchera pas d'ailleurs par la suite de réaliser des centaines de pochettes de disques pour Barclay, et puis de travailler chez Philippe Aki pour créer des magazines, on verra lesquels. À demain, Étienne Robial.
À demain, bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Guillot avec Étienne Robial. À voix nue, réalisation François Connac, prise de son Laurent Lucas, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.